Il y a quelques jours, donc il y a jeudi dernier, c'était la fête de l'Ascension. C'est une fête qui est très mal connue du monde protestant, évangélique. Les catholiques le fêtent. C'est-à-dire, quand je dis fête, c'est un rassemblement de l'Église pour prendre du temps devant la présence de Dieu. Et on va essayer de, j'ai essayé de vous dire un peu, d'une part, pourquoi c'est un peu négligé, mais surtout pourquoi ça ne devrait pas l'être et qu'est-ce que la fête de l'Ascension nous apprend. Alors on va lire l'évangile de Luc. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 24, verset 36. Tandis qu'il parlait de la sorte, ce verset 36, lui-même se présenta, donc Jésus, au milieu d'eux, et leur dit « La paix soit avec vous ». Et je passe au verset 45. « Alors il leur ouvrit l'intelligence, afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit « Ainsi il était écrit, il fallait que cela arrive, que le Messie souffrirait et qu'il ressusciterait le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses, et voici que j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, restez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Et il les conduisit jusque vers Béthanie, puis il leva les mains et les bénit. Et pendant qu'il les bénissait, il les quitta et fut enlevé au ciel. Donc Béthanie, c'est à quelques encablures, quelques kilomètres de Jérusalem, hein, c'est pas loin. C'est là où habitaient Marthe, Marie, où Jésus souvent s'arrêtait, où il y avait Lazare aussi. Voilà. Donc ça, c'est le récit dans Luc, hein, où, après la résurrection, Jésus ressuscité s'est de temps en temps manifesté et disparaissait. C'est-à-dire qu'il n'était plus dans le même corps qu'il avait auparavant avec ses disciples. Donc il avait le corps de résurrection. Et là, on a ce passage où eh bien, il prie pour eux, il leur ouvrit l'intelligence pour qu'ils comprennent les Écritures. Vous savez, on peut lire la parole et ne pas comprendre spirituellement les choses. On peut comprendre les mots qu'on lit, mais c'est ce qui est important, c'est de comprendre spirituellement. Et j'aimerais ce matin que la fête de l'Ascension, je puisse bien vous l'expliquer et vous ouvrir l'intelligence par le Saint-Esprit. Les fêtes, hein, puisqu'on parle de fêtes, hein, fête de l'Ascension, fête de Pâques, etc. Les fêtes, bon, bien sûr, dans le protestantisme, on met pas trop l'accent sur les fêtes. Hein. Israël, en Israël, les fêtes, quelque chose de très très festif, voilà, dans toutes nos civilisations. Mais le protestantisme a un peu, ils ont réglé cette austérité, hein, cette austérité protestante. Et c'est un peu dommage parce qu'on perd la compréhension de la fête. Les fêtes sont ordonnées par Dieu. Elles sont ordonnées à son peuple dans la parole de Dieu, et en particulier dans Lévitique, dans Exode, etc. Pour qu'est-ce qu'on fait dans ces fêtes, hein ? On ne fait pas simplement on mange et on boit, mais on se réunit pour rendre un culte à Dieu en tant qu'assemblée. C'est-à-dire ensemble. Donc la fête, c'est ensemble pour rendre un culte, mais aussi pour garder la mémoire des actions divines en faveur du peuple. Donc quand Israël se réunissait, il se rappelait tout ce qu'il vivait. Hein, et justement, c'est pour ça que les enfants apprenaient très facilement la Bible, parce que c'était répété dans les fêtes régulièrement. Mais ces fêtes, c'était aussi pour garder le peuple en éveil. Voyez-vous, parce qu'on a tendance à s'endormir. Ça ne vous arrive pas, vous, de vous endormir spirituellement ? Rappelez-vous votre conversion. Hein. Moi, je me suis converti en 1967, donc c'est vieux. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je me rappelle comme c'était hier, parce que c'était tellement puissant. Mais même ce souvenir ne suffit pas pour nous garder éveillés. L'éveil, c'est en se rappelant, effectivement, à nous-mêmes et ensemble, combien le Seigneur est bon et combien il est bon encore aujourd'hui, pas en 1967. Dans Exode chapitre 23, je lis ce passage, donc dans la Torah, hein, donc le Pentateuque, les cinq premiers livres, dans le Lévitique, il décrit ces jours comme des temps d'assemblée sacrée, hein, donc on apporte un culte avec des offrandes. Et donc dans l'Exode chapitre 23, verset 14, il est dit: trois fois par année, tu célébreras les fêtes en mon honneur. Avez-vous les fêtes? C'était en honneur de Dieu. C'était bien spécifique, c'était pas une fête pour une fête. Tu observeras la fête des pains sans levain, etc. Tu observeras la fête de la moisson, des prémices de ton travail, de ce que tu auras semé dans les champs et la fête de la récolte à la fin de l'année. Amen. Nous avons perdu la notion de fête. Je sais que les Français, en général, il y a encore 50 ans, on était à 80%, on était issus d'agriculteurs, hein, des gens qui étaient dans l'agriculture. Ma mère était dans une ferme. Et bien sûr, ses grands-parents étaient fermiers, etc. D'ailleurs, on va retourner la semaine prochaine à côté de cette ferme. Et elle disait que quand ils allaient dans les champs, donc à son époque, et quand ils semaient, ils s'arrêtaient et priaient pour que le Seigneur bénisse la semence qu'ils ont semée. Ils avaient cette habitude de prier. Hein. Aujourd'hui, voilà, on sait même plus ce que c'est que de semer, hein, dans les villes, etc. Et en plus, avec l'agriculture intensive, c'est les tracteurs qui font ça, etc. On n'a même plus le temps de voir la vitesse à laquelle... Non, là, c'était... On semait à la main et on priait pour que Dieu puisse bénir. Donc, vous voyez, on est loin aujourd'hui de la nature et de ce que Dieu fait dans la nature. En Israël, il y avait trois fêtes majeures, donc, qui étaient imposées, où il fallait que le peuple, pas tous les ans, mais en tout cas qu'il fasse un pèlerinage à Jérusalem. C'est-à-dire que même ceux qui habitaient en haut d'Israël, il fallait qu'ils aillent, qu'ils laissent tout, qu'ils aillent à Jérusalem et qu'ils fassent un pèlerinage à Jérusalem. Sur ces trois fêtes, c'est la Pessa. Alors, juste pour information, les Juifs, ils ont trois fêtes, mais la troisième fête, la dernière fête, il y a trois temps. Donc, en fait, ça fait cinq fêtes, mais les trois se succèdent les unes après les autres, on verra tout à l'heure. Le christianisme, quand je dis œcuménique, c'est-à-dire qui est commun entre catholiques, protestants, orthodoxes, on a quatre fêtes, voire cinq, si on compte le Vendredi Saint dedans, ce qui n'est pas le cas, enfin, des protestants luthériens, oui, mais pas forcément réformés, ni évangéliques. Donc, entre quatre et cinq fêtes. Les catholiques ont dix fêtes liturgiques, parce qu'ils incluent aussi les fêtes à Marie, etc. Et les orthodoxes, encore plus, 12 fêtes liturgiques. Mais je rappelle qu'il n'y en a que 3 en Israël. Alors, je rappelle ces 3 fêtes. La fête de la Pâque, donc la Pessa, ou la fête des azimes, pain sans levain. La fête des prémices, ou la fête de Shavuot, donc des semaines. Et la fête des trompettes, qui, elle, se décline parce que les trompettes ouvrent une fête avec 3 temps. Donc, avec la fête des expiations, qui suit tout de suite la fête des trompettes, qui est le Rosh Hashanah, qui est le premier jour de l'année juive, un peu comme nous, l'année scolaire, qui commence en septembre. Pour eux, c'est l'année civile, qui commence en septembre. Et il y a la fête des cabanes, la Sukkot, les cabanes, les tabernacles. Donc voilà les 5 fêtes, les 3 dernières sont regroupées, qui sont fêtées par les Juifs encore aujourd'hui. Les 2 fêtes qui devraient être mises en valeur, Dans le protestantisme, et que j'en aborde une ce matin, c'est la fête de l'Ascension, nécessite une compréhension un peu plus approfondie du royaume de Dieu. Dans cette église, j'ai proposé une étude sur le royaume de Dieu un peu plus approfondie, parce qu'on parle beaucoup de royaume, Jésus parlait du royaume, Jean-Baptiste parlait du royaume, etc. Ces derniers temps, on parle beaucoup du royaume de Dieu. Eh bien, c'est une fête qui est liée à la compréhension du royaume de Dieu. Et la dernière fête, la fête des trompettes, là, qui apparaît, cette fête-là, on ne la fête pas du tout. Pas du tout, sous une forme un peu déguisée, dans le sens où c'est pas les trompettes, c'est les récoltes. Par exemple, surtout en Allemagne, chez les luthériens, etc., ils fêtent beaucoup la fête des récoltes. Au Canada aussi, quand on était avec ma femme pendant 2 ans au Canada, début octobre, il y a la corne d'abondance, etc., on fête beaucoup ça. Les fêtes agraires. Mais les fêtes des trompettes, c'est pas une fête agraire. C'est une fête liée au Yom Kippour et au tabernacle. Je reviendrai là-dessus. Elle est plutôt liée, si on veut faire un parallèle avec l'évangile, c'est les 10 vierges de Matthieu 25. Rappelez-vous, Jésus a parlé de ces vierges sages. Sur les 10, il y avait 5 sages, 5 folles. Les 5 sages, elles avaient leur huile qui était remplie pour être prête lorsque l'époux va venir. Et les 5 folles, elles n'avaient pas d'huile. Et au moment où l'époux arrive, eh bien, ils ne pouvaient pas entrer parce qu'ils n'avaient plus d'huile. Donc, c'est plutôt lié à ça et je vous expliquerai comment. Ici, l'Église, qu'on a commencé en 90, mais en 2000, on l'a refondée sous forme d'Église protestante évangélique d'Aubergenville, qui est sur le panneau dehors. Et à ce moment-là, on a instauré cette fête-là, fin septembre, et on va encore la refaire cette année, parce qu'elle est très importante, c'est la fête des trompettes. Alors, je vais vous donner juste un aperçu de ces fêtes-là, parce qu'elles s'écoulent sur l'année, hein, pour que vous puissiez suivre ce que je vais dire après. Donc, vous avez les 3 fêtes d'Israël, hein, les 3 fêtes juives, qui aujourd'hui sont toujours célébrées, la Pessa, hein, la Pâque, qui remonte au passage, bien sûr, la mer Rouge, hein, délivrance de l'esclavage de l'Égypte. Le Shavuot, hein, Shavuot sont la fête des semaines, qui sont les premières gerbes de blé, les premières moissons des blés. Vous voyez, en ce moment, déjà, les plaies sont pratiquement mûres. Hein, en Israël, c'est encore plus tôt, où on récolte déjà les blés. Et ensuite, après, c'est en octobre où toutes les récoltes, les fruits, etc., sont récoltés. Et c'est la Rosh Hashana, donc l'année qui s'ouvre en septembre, avec les trompettes qui commencent à l'ouvrir, ensuite le Yom Kippour et les tabernacles. J'étais étonné, hein, parce que, vous savez, dans certaines civilisations, on voit pas trop ce qui se passe, ce que c'est caché. Mais là-bas, aux États-Unis, au Canada, quand j'ai fait mon service national, on s'est installé dans un quartier juif, on savait pas. Et là, en octobre, d'un seul coup, on voit des cabanes se dresser sur des balcons, dans l'arrière-cour des jardins, etc. Et je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça, etc. Et on s'est renseigné, eh bien, ils font les cabanes, pas uniquement en Israël, mais aussi quand ils sont dans d'autres pays. Et pas ici, j'en ai pas vu, au moins que certains en aient vu, mais ils s'affichent pas. Et là-bas, ils font des cabanes, donc ils fabriquent des cabanes, c'est là, ou les huttes, si vous voulez, ou les tabernacles. Et pendant une semaine, ils vivent dedans. Même la nuit, ils vivent dans ces cabanes, même s'ils sont à 3 mètres de... Voilà. Ils fêtent vraiment concrètement la fête des cabanes. Et je peux revenir là-dessus, mais ce n'est pas l'objet ce matin. Les fêtes chrétiennes, bien sûr, il y a l'accomplissement des promesses de ces fêtes-là, hein, qui sont une annonce de ce qui va se passer avec le Messie, le Messiah. Avec loin, celui qui va être loin par Dieu pour accomplir tout ce qui a été dit à Israël. Donc on est directement, nos fêtes sont directement issues des fêtes juives. Alors c'est lesquelles ? C'est Pâques, bien sûr. Sauf que ce n'est pas le passage du peuple qui passe de l'esclavage de l'Égypte au pays de Canaan, mais c'est nous qui passons de l'esclavage de la mort, notre corps qui va mourir, à un corps de résurrection, et Jésus qui est les prémices, qui est le premier de celui qui a ressuscité, et nous ressusciterons avec lui de la même manière. Donc il y a l'accomplissement de Pâques, de ce passage de la mort à la vie, eh bien, au travers de Jésus. Donc c'est Pâques qui remplace la Pessa. Alors aujourd'hui, les dates ne sont pas toujours les mêmes. Des fois, on tombe exactement pile parce que les Juifs s'appuient sur la Lune pour leur calendrier, nous sur le Soleil. Hein. Voilà, c'est toute la différence. Donc avec la Lune, eh bien, ça change tous les ans par rapport au Soleil. Et donc on n'a pas toujours sur les mêmes dates. Mais sinon, la fête est exactement la même chose. Ensuite, la Pentecôte, c'est donc 50 jours après Pâques. Cette fête-là a toujours été fixée de la même manière. Et nous, la Pentecôte, eh bien, c'est l'équivalent de la Shavuot, donc la fête des semaines qui correspond, eh bien, à cette première moisson qui était obligée, une fête obligée pour les Juifs et que nous fêtons à la Pentecôte, à la naissance de l'Église. Ensuite, nous, on rajoute Noël, hein, qui n'est pas une fête juive. Bon, ils ont la Hanouka, mais la Hanouka, il y a neuf branches, ça c'est une à sept branches, c'est la Menorah. C'est une victoire qu'ils ont eue au temps des Maccabées, mais qui correspond à Noël, mais ça n'a rien à voir avec Noël. Donc nous, on a Noël, qui est bien sûr la naissance de Jésus, qui n'est pas reconnu par les Juifs, bien sûr. Donc, c'est spécifique à nous, Noël. Ensuite, après, il y a le Vendredi Saint. Alors, j'ai introduit le Vendredi Saint, même si nous, on ne le fête pas, c'est-à-dire qu'on ne se réunit jamais le Vendredi Saint pour prier ensemble, pour faire un culte, mais les catholiques le font, les luthériens aussi le font. Pourquoi ? Parce que le Vendredi Saint, ou plutôt le jeudi soir, il y a la mort de Jésus. Donc Jésus, il meurt à la croix et trois jours après, il ressuscite. Donc la mort et la résurrection. Donc c'est quelque chose qui est célébré, comme je vous l'avais dit. Les fêtes ont cette vocation aussi de nous remémorer exactement ce qui s'est passé ce jour-là, ce jour anniversaire. Et ensuite, et l'Ascension. L'Ascension, pareil, justement, c'est une fête sur laquelle je prêche ce matin, qui n'est pas connue dans nos milieux évangéliques ou protestants, mais qui est très, très importante pour bien comprendre ce qui s'est passé à l'Ascension. Et ensuite, après, la fête des trompettes, qui n'est pas du tout une fête chrétienne, mais qui devrait l'être, et qui, pour nous, depuis 25 ans, on la célèbre. Et je vous dirai comment on célèbre cette fête. Enfin, on n'est pas les seuls, hein, je veux dire, il y a d'autres approches, hein, de cette fête des trompettes, mais qui est une fête prophétique, bien sûr. Elle n'est pas encore réalisée. C'est la venue de Jésus, c'est le retour de Jésus. Alors, on va revenir un peu sur ces fêtes que je viens de décrire. La fête de l'Ascension, elle a été établie au niveau du christianisme, dès le IVe siècle. Donc, les pères de l'Église, hein, c'est les premiers siècles, avec Augustin, Irénée, etc., ils ont attesté que c'est une fête qui doit être fêtée au niveau chrétien. Elle commémore la fin de la vie terrestre de Jésus. Vous savez que Jésus est venu, et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a apporté le royaume de Dieu. Pourquoi ? Parce que lui-même est Dieu. Il a quitté sa gloire pour revêtir une forme humaine, mais il est resté Dieu. Donc il est venu et le royaume de Dieu s'est approché. C'est pour ça qu'il disait à ceux qui l'écoutaient et même ses disciples, le royaume de Dieu est proche. Le royaume proche dans le sens où il est à côté de vous. Il est à côté de vous. Jésus, en tant qu'incarnation du royaume, quand il était là, c'est pour cela que quand il imposait les mains, les maladies guéries. Quand il priait pour Lazare, Lazare a ressuscité parce que le royaume de Dieu, c'est le royaume de la vie, le royaume de la puissance, de vie. Et donc, il incarnait cela. Et donc, pendant trois ans à partir du moment où il était oint par le Saint-Esprit au moment du baptême, pendant les trois ans, 30 à 33 ans, le royaume de Dieu était là, à côté. Et ils ont pu bénéficier de ce royaume pendant trois ans. Mais au moment de l'ascension, ça s'est terminé. Jésus est parti dans le ciel, comme on l'a lu tout à l'heure. Aux yeux des apôtres, ils ne pouvaient plus le voir. Pendant la période de l'ascension, entre Pâques et l'ascension, il se manifestait dans son corps de résurrection, mais il a dit « je ne suis pas encore remonté vers le Père ». Et donc, ils ne pouvaient pas le toucher parce qu'il avait un corps de résurrection, mais ils pouvaient le voir, pouvaient l'apercevoir, et il y a jusqu'à 500 personnes qui ont pu ainsi découvrir Jésus ressuscité. Mais à l'ascension, il est parti définitivement, en tout cas jusqu'à son retour. Donc, vous voyez, c'est un moment important concernant le royaume, comme je le disais tout à l'heure, le royaume de Dieu. Il est toujours là, mais le type de présence n'est plus la même. Pendant que Jésus était sur place, sur la terre, il était là physiquement avec le royaume. Et quand il est parti dans le ciel, donc pour s'asseoir à la droite du Père, le royaume de Dieu est toujours là, mais de quelle manière ? Je vous fais un peu interagir, parce que j'aime bien vous faire réagir. De quelle manière le royaume de Dieu est présent en ce moment toujours avec nous ? Pardon ? Malheureusement, j'entends pas. Exactement, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi, vous voyez, ces fêtes-là, ça nous rappelle des points de doctrine, de notre doctrine chrétienne. Si on ne la connaît pas, comment voulez-vous qu'on évangélise des personnes qui ne connaissent pas le christianisme, surtout que maintenant, les gens ne connaissent plus le christianisme. Donc, Jésus a dit, « Je vous enverrai mon esprit. Je ne vous laisserai pas orphelin. » Et donc, la venue du Saint-Esprit était capitale en termes de royaume de Dieu, pour remplacer la présence de Jésus physiquement par la présence de l'Esprit. C'est pour ça que le Saint-Esprit est un agent qui est absolument capital pour nous, parce que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas être chrétiens. D'ailleurs, on ne peut pas vivre la vie chrétienne, parce que c'est le Saint-Esprit en nous que nous avons reçu au moment où on a accepté Jésus. Alors après, je ne parle pas des charismes, etc. C'est un autre domaine. Deuxième baptême de l'Esprit, ça c'est autre chose. Le Saint-Esprit, on le reçoit quand on reçoit Jésus dans son cœur. Amen. On reçoit, on ne peut pas recevoir. D'ailleurs, Pierre, quand Jésus a demandé « Qui dites-vous que je suis ?» Et Pierre a dit « Tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Il a dit « C'est pas toi, c'est mon Père. » Par son esprit qui t'a mis dans la bouche ça, parce que tu ne peux pas le dire par toi-même, c'est par le Saint-Esprit. Donc nous sommes chrétiens par le Saint-Esprit. Donc vous voyez, le royaume de Dieu n'a pas quitté cette terre, mais la manifestation, au lieu de le faire physiquement par Jésus, ça se fait spirituellement par le Saint-Esprit. Dans Matthieu 28, 20, Jésus dira à ses disciples, « Je suis avec vous, tous les jusqu'à la fin du... » On le redit tous ensemble. « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Vous êtes chrétien, vous avez la foi, vous croyez que ça c'est vrai ? C'est Jésus qui l'a dit ? Ben, ça veut dire que concrètement, ça prend une réalité dans notre vie. Cette réalité, c'est qu'effectivement, à l'ascension, Jésus est parti. Le seul problème, c'est qu'après, il faut expliquer les 9 jours qui séparent l'ascension de la Pentecôte. Voilà, et j'en parlerai tout à l'heure. Parce que entre les deux, il n'y avait pas le Saint-Esprit. Donc, il ne pouvait pas être chrétien. Enfin, c'est des points théologiques, je ne vais pas aborder tout ça. On peut discuter. Mais en tout cas, c'est à la Pentecôte que le Saint-Esprit a été envoyé et que l'Église est née. Mais l'ascension, Jésus est parti, il est allé s'asseoir à la droite de Dieu pour régner éternellement, et 9 jours après, il a envoyé le Saint-Esprit pour faire naître son épouse. Voyez-vous, c'est un peu comme la Genèse, dans Genèse 2, vous avez le récit de la création d'Adam et d'Ève. Ève a été créée à partir de qui ? Adam ? Adam a été créé à partir de quoi ? De la glaise, de la terre. Vous voyez, les origines ne sont pas les mêmes. Allô ? Et il y a une raison pour cela. C'est que Ève est sortie de la côte, c'est une côte, il a perdu une côte, hein, de son côté, et donc elle fait partie de lui, elle est vis-à-vis, la femme est vis-à-vis de l'homme. Eh bien, l'épouse, l'Église, c'est pareil, elle est vis-à-vis de Jésus. Jésus, c'est la tête, et l'Église, c'est son corps. Et vous voyez, on parle d'église locale, etc., mais l'église, il n'y en a qu'une, c'est le corps de Christ. Les églises locales, c'est l'organisation et la manifestation de l'église corps de Christ, localement, mais il n'y a qu'une seule église, c'est l'église de Jésus, c'est l'épouse, son épouse, pour laquelle toute cette épouse est préparée pour son retour. Il n'y a qu'une seule épouse, elle n'a pas 36 000. Donc il faut bien comprendre que ça touche le royaume de Dieu. Et quand on ne comprend pas le royaume de Dieu, on est perdu, parce qu'on mélange tout, on mélange les églises locales, on mélange les assemblées, on mélange le corps, on mélange, etc. Mais l'ascension, si on pouvait effectivement avoir une fête de l'ascension, on pourrait rappeler toutes ces choses-là. Vous voyez, c'est ça l'objet de la fête, c'est qu'on rappelle, comme là je le fais, je ne suis pas à l'ascension, mais je devrais le faire à l'ascension à chaque fois pour se rappeler les grandes doctrines chrétiennes, les grandes vérités fondamentales du christianisme. Les actes des apôtres rapportent que pendant les 40 jours qui ont suivi Pâques à l'ascension, Jésus est apparu, l'heure est apparue, et est apparu à plus de 500 personnes. Aujourd'hui, les disciples, c'est-à-dire nous les chrétiens, sont tenus de croire, sans preuve visible, puisqu'on n'a pas vécu à ce moment-là, et c'est sur le témoignage des apôtres, c'est pour ça que notre foi repose sur le témoignage des apôtres de ce moment-là, c'est et qui nous laisse dans le Nouveau Testament que nous fondons notre foi. Si bien sûr ils avaient menti, notre foi est vaine, c'est ce que dira l'apôtre Paul. Donc nous dépendons effectivement de la véracité du témoignage des apôtres. Ce qui est intéressant, c'est l'histoire de Jonas. Vous vous rappelez Jonas ? Jésus parlait souvent de Jonas, parce que en fait, c'est Jonas, c'est un peu une préparation parabolique, un peu une parabole de ce que Jésus va vivre. Après avoir achevé et consommé le mystère du rachat, pourquoi Jésus est venu, pourquoi Dieu nous rachète alors que nous étions perdus, eh bien notre Seigneur Jésus-Christ est monté au ciel comme Jonas est sorti du ventre du poisson. Il est resté combien de temps dans le monde du poisson ? Et combien de temps Jésus est resté dans la mort ? Voilà, donc vous avez tout compris. Et Jésus lui-même prend cette analogie. Hein. Et Jésus est sorti du ventre de la terre, de la mort, hein, comme un homme avec un corps de résurrection, avec son âme et son esprit. Ce n'est pas en tant que Dieu qu'il est sorti, c'est en tant qu'homme ressuscité. C'est notre espérance. Sinon, s'il est sorti comme un Dieu, ça ne nous sert à rien. Dieu, on sait qu'il n'est pas mort, et qu'il ne peut pas mourir. Mais un homme, nous, on va tous mourir. Mais notre espérance, c'est de ressusciter. Il y en a qui veulent ressusciter ici ? Hein, qui ne veulent pas rester dans ce corps qui est attaqué par la maladie et les difficultés, et les contraintes, etc. Mais voilà, c'est l'objet de ce que les hommes et les femmes recherchent, le sens à leur vie. Parce que la vie, ça ne s'arrête pas. C'est que nous aurons un corps à ressusciter comme Jésus. Eh bien, c'est l'histoire de Jonas. Et comme Dieu, Jésus était toujours au ciel, puisque par sa divinité, il occupe et remplit tous les lieux dans la terre et dans le ciel. Mais ces trois jours symboliques, Ça aurait pu être 4, ça pourrait être 6, j'en sais rien. C'est 3 jours que Jonas est resté dans l'eau du poisson. Ça anticipait ce qui allait passer à Jésus, qui est resté 3 jours dans la terre. Et ces 3 jours aussi, parce que le chiffre 3, il faut savoir que dans la culture hébraïque, chaque lettre, A, B, C, D, enfin c'est pas A, B, C, D, mais chaque lettre, il y a un chiffre. Ils ont pas de chiffre, le chiffre, c'est la lettre. Par exemple, David, alors il n'y a pas de consonne, donc il y a DVD, DVD, voilà, David, parce que DVD, c'est 14. C'est 2, 12, 2. Donc, par exemple, chaque nom peut avoir une correspondance numérique. C'est ça, c'est ce qu'on appelle la numérologie. Il y a toute une théologie là-dessus, une théorie là-dessus. Eh bien, le chiffre 3, il représente toujours, toujours, dans la Bible, la totalité, la perfection, bien sûr la Trinité, la stabilité, vous avez toujours un trépied, etc., même dans le domaine de la physique, etc. Le chiffre 3, c'est ce début de stabilité, 2, non, 1, non, 3, oui. Donc le début du 3 est le chiffre de la stabilité, le chiffre de la Trinité. Et c'est ça qui s'est passé, c'est que Jésus est entré dans la mort, en 3 jours, il est ressorti. Et il l'a dit. Il a dit, en 3 jours, je rebâtirai ce temple. Et le disciple a dit, mais tu es fou. Ça a pris des centaines d'années, le temple de Salomon. C'est pas possible. Il parlait de son temple à lui. Parce que lui, c'est le temple de Dieu. Je parle de Jésus homme. Hein, pas de Jésus Dieu. Nous sommes le temple. Hein. Tu peux dire à ton voisin, ta voisine, tu es le temple de Dieu. Vous voyez le temple, ce n'est pas ce bâtiment-là. C'est pour ça que quand enfin, au bout de 35 ans, la mairie m'a demandé, nous a autorisé d'avoir les panneaux qui indiquent notre église, qui est quand même visible de loin. Ils nous avaient toujours interdit. Et bien là, on est maintenant. Ils ont dit, est-ce que vous voulez vous appeler temple de Aubergenville ou église? Ah, c'était tout un problème, j'ai cherché, etc. Ben, je dis église. J'ai église. Parce que le temple, c'est nous. C'est nous. Vous voyez? Alors que les gens qui pensent temple, ils pensent venir en temple, c'est comme un temple païen. Hein, on n'est pas un temple païen, on est un local, un lieu, 7 boulevards de la plage. On se réunit et le temple, on devient temple quand l'ensemble de l'Église est là, quand le corps de Christ est là. Enfin, c'est toute une réflexion qu'il faut avoir pour pas se tromper de sens avec quand on discute avec les personnes pour les évangéliser. Ensuite, il y a donc les 3 jours qui séparent le vendredi saint, la mort, de la résurrection. Et après, vous avez 40 jours. 40 jours, d'où est-ce qu'ils sortent ces 40 jours? Parce que normalement, vous avez 49 jours. Pentecôte, ça veut dire 50, hein, puisque c'est le 50e jour. C'est 7 fois 7, 49. Alors le chiffre 7, c'est le chiffre aussi de Dieu. Hein. Donc 7 fois 7, 49. Et d'un seul coup, il y a 40 qui apparaissent. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que veut dire ces 40? Eh bien, le chiffre 40 a toujours la valeur symbolique de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, toujours le même. C'est le chiffre de l'attente, le chiffre de l'épreuve, le chiffre du jeûne. Hein. Par exemple, les 40 jours du déluge, hein, les 40 jours du déluge qui s'abattent sur la terre. Les 40 ans du peuple hébreu dans le désert. Les 40 jours de jeûne de Moïse au mont Sinaï avant de recevoir la loi. Les 40 jours d'errance d'Élie, vous vous rappelez, quand il a été menacé par Jézabel. Et les 40 jours que le Christ a passé au désert. Et puis, Jonas, où est-ce qu'il y a les 40 dans le récit de Jonas, à votre avis? Il y a aussi les 40 qui sont mentionnés, parce que là, on est Jésus, Jonas, c'est pratiquement l'équivalent de ce qui était prévu pour Jésus dans le récit de Jonas. Où est-ce qu'on retrouve le chiffre 40 dans le récit de Jonas? Il y a 40 jours pour annoncer à Nénive qu'elle est détruite. Voilà. Dieu a dit, dans 40 jours, et puis même Jonas l'a dit, dans 40 jours, cette ville sera détruite. Donc, vous voyez, les 40, c'est toujours un chiffre d'épreuve, un chiffre d'attente, un chiffre de mise en situation où qu'est-ce qu'on va faire ? Ninive devait être détruite 40 jours après. Or, qu'est-ce qui s'est passé à Ninive ? Ninive s'est repenti. S'est repenti. Et là, c'est déjà, le prémisse de ce que je vais dire tout à l'heure sur l'ascension. C'est que Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Il veut le sauver. Mais il ne peut le sauver que s'il se repent. Il ne peut pas les sauver d'office, d'obliger. Il ne peut pas nous obliger d'être libres si on veut rester esclaves. Donc il faut accepter de chercher la solution. Et Jonas n'était pas content parce que c'était un peuple horrible. Ils mangeaient dans le crâne de leurs ennemis, le sang, etc. Enfin, si vous lisez ce que faisaient les Ninivites, on comprend que Dieu voulait les tuer. Eh bien, ils se sont repentis. Mais Jonas ne comprenait pas que Dieu pouvait permettre qu'ils se repentent. Voyez, mais c'est déjà une parabole de ce que nous, on doit annoncer à ce monde qui se perd. On ne doit pas faire attention à leurs réponses. On doit leur annoncer l'évangile pour qu'ils puissent se repentir. Donc dans Ninive, on a les 40 jours. Ça traduit une durée un peu étonnante, mystérieuse. C'est aussi le nombre du carême. Par exemple, le carême, on ne le fait pas trop en protestant, mais encore que les évangéliques, on a fait beaucoup le carême avec Jeunesse en Mission, etc. C'est-à-dire, c'est le 40e, carême vient de 40, 40e jour de préparation pour préparer nos cœurs à vivre le temps de Pâques. Le choix du nombre 40 est très symbolique parce que en Israël, c'était le temps d'une génération. Une génération, ça durait 40 ans. Donc ça veut dire que il symbolise une vie entière. 40, c'est une vie entière. Une façon de rappeler aux chrétiens que notre vie est mesurée et que dans cette vie, il nous faut nous mettre à la recherche du Seigneur et à la sanctification. 40, c'est un temps de silence, de prière, un temps d'épreuve et de cheminement de maturation. Qu'est-ce que les disciples ont fait après Pâques, en attendant la Pentecôte? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Je vous écoute, vous connaissez la Bible aussi bien que moi. Pardon? Voilà. Dans la chambre haute, c'est la chambre où il y a eu le repas du Seigneur qu'on fera tout à l'heure, dans le cénacle, ce qu'on appelle la scène. Et dans cette chambre haute, ils se sont barricadés, fermés tout, voilà, etc. Et ils sont restés là. Je confonds l'ascension à la Pentecôte. Là, je parle des 40 jours, je suis allé trop loin dans mon message, c'est après. Les 40 jours ici, ce sont de Pâques à l'ascension, où ils ont remarqué Jésus qui apparaissait. Voilà. Donc là, le Seigneur leur a permis de réaliser un changement, ce qu'on appelle aujourd'hui un changement de paradigme. C'est-à-dire, d'un seul coup, réaliser dans toute l'humanité qui n'a jamais existé que la résurrection des morts, c'est possible pour un être humain. C'est pas évident. Mettez-vous à la place des disciples. Les disciples, d'un seul coup, ils voient Jésus qui apparaît là. Puis d'un seul coup, il disparaît. Et puis à d'autres moments, les disciples d'Emmaüs, ils cheminent avec quelqu'un qu'ils ne connaissent pas, c'est Jésus, et au moment de la scène, il disparaît. Vous voyez, toutes ces apparitions, ces disparitions, tout ça, c'est très étrange. Et il fallait qu'ils comprennent ce qui se passe, que Jésus, homme, est ressuscité. Et tout ça, c'est un changement de mentalité. Donc il fallait ces 40 jours de réflexion pour passer d'une conception qu'il n'avait pas du tout imaginée. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul, vous connaissez son discours à Athènes? Ça vous dit quelque chose, le discours d'Athènes? Qu'est-ce qu'il a dit? L'apôtre Paul est allé sur l'acropole d'Athènes. Voyez-vous, c'est un peu l'équivalent. Vous allez à Place Beaubourg à Paris, où voilà, tout le monde peut prendre la parole. Enfin, c'est encore... Il y avait tous les sages qui se réunissaient là-bas. Et l'apôtre Paul parle de Jésus et de la résurrection. Et comment s'appelle la résurrection? En grec, c'est Anastasis. Donc, il parlait de Jésus et d'Anastasis. Alors, les Grecs ont C'est les sages, hein, c'est les sages, comme on peut imaginer Aristote, Platon, enfin tous les sages qui sont vénérés aujourd'hui par l'humanisme. Eh bien, ils ont écouté l'apôtre Paul, ils ont dit, ah, oh, c'est intéressant, toi. Tiens, tu nous parles d'un nouveau couple qu'on ne connaissait pas, un couple de Dieu, quoi. Parce qu'Anastasis, c'est féminin, et puis Jésus, c'est masculin. Donc, Anastasis, pour eux, c'était une femme. C'était pas la résurrection. Donc, ils parlaient de Anastasis et de Jésus. Et ils l'ont écouté. Ils l'ont écouté. Il y a tout le discours que vous avez dans les Actes des Apôtres. Et puis, à un moment donné, il continue son récit. Vous le lisez. Et puis, à un moment donné, il dit, Jésus est ressuscité des morts. Donc, il parlait plus de la résurrection Anastasis au niveau d'un prénom qui pouvait être féminin, mais que Jésus, homme, est passé de la mort à la vie. Et qu'est-ce qui s'est passé là? Tous les sages, tous ceux qui sont sur la raison, qui essaient de comprendre la vie, qui ont perfectionné leur sagesse, leur philosophie jusqu'à un point absolument impossible, où il y en a les stoïciens et il y en a qui mangeaient même plus, comme Diogène, etc., tellement ils voulaient être sages. Qu'est-ce qu'ils ont fait au moment de ce discours, quand ils ont compris qu'il parlait d'un homme qui est ressuscité? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Pardon? On t'écoutera là-dessus. Bye bye. Ça, c'est pas possible. C'est impossible. Voyez-vous, ça rentre pas dans le schéma. Depuis la nuit des temps, on sait qu'un homme ne peut pas ressusciter. Allô? Je dis pas revenir à la vie, hein. Ça c'est l'EMI, c'est tout à fait autre chose. Ressusciter, c'est-à-dire avoir un corps nouveau qui ne peut plus mourir, qui est complètement différent. C'est un corps, je dirais, atomique, j'en sais rien, mais un corps que Dieu va créer et que Jésus a reçu. Donc c'est une manière, une vision du monde qui ne peut pas être captée comme ça d'une seconde à l'autre. Donc il fallait ces 40 jours où Jésus apparaissait, etc., il leur parlait, etc., pour qu'ils comprennent que le message chrétien est un message authentique qui n'existe pas sur toute la planète. Ni dans les philosophies, ni dans les religions, ni nulle part. Mais c'est un fait. Et aujourd'hui, vous voyez, l'ascension, ce serait bien qu'on puisse se rappeler de ça, dans notre témoignage. Qu'on annonce un Christ, bien sûr, on dit un Christ ressuscité, tout ça, mais est-ce qu'on réalise ce que c'est? Est-ce qu'on réalise par rapport à ce que les gens cherchent dans leur vie? Et qu'on est convaincu de ce qu'on leur dit? Parce que si on est convaincu, on peut, quelque part, les entraîner dans le discours. Sinon, voilà, ça les accroche pas du tout. Voyez-vous, c'est un changement de paradigme. Donc ces 40 jours ont servi, pendant cette période de 40 jours, à ce que Jésus puisse changer leur mentalité, parce qu'ils n'ont toujours pas compris, hein. Jusqu'à la mort de Jésus, ils n'ont pas compris. De toute façon, il n'y avait que Marie et Jean qui étaient au pied de la croix. Les autres ont disparu parce qu'ils n'ont pas compris que un sauveur qui disparaît comme ça, arrêté par les Romains, puis tué. Ils n'ont pas compris. Donc ces 40 jours ont permis de rentrer en eux-mêmes, de comprendre et puis d'asseoir leur foi. L'ascension de Jésus est absolument essentielle dans notre vie quotidienne. Jésus est monté au ciel pour donner un nouvel élan à notre existence terrestre de chrétien. Jésus, qui portait le royaume de Dieu en lui, qui était proche, il va le placer en celui qui va porter son nom, le petit Christ, que nous sommes, chrétiens, petit Christ. Il va le placer en nous, ce royaume de Dieu. Bien sûr, il n'aura pas la même dimension que Jésus, mais n'empêche qu'il est là. Si nous réalisons que nous portons Jésus en nous et que nous devons être ses témoins, ça change complètement notre témoignage chrétien. Notre vie terrestre peut avoir ce sens aujourd'hui si nous comprenons l'ascension. C'est que Jésus, eh bien, lui est parti de la terre, mais il nous a envoyé le consolateur, l'avocat, son esprit. Il est monté au ciel, assis à la droite pour régner éternellement. Mais le mouvement de Jésus vers le ciel produit à nouveau une nouvelle mission vers une tâche extraordinaire qui nous a été confiée en tant que disciples. C'est-à-dire qu'il y a un mouvement vers le ciel, l'ascension, et un mouvement vers l'avant, pas vers l'arrière. Les disciples, après ça, ils ont été gonflés, je dirais pas à l'hélium, ils ont été gonflés par le Saint-Esprit. Aller de l'avant, parce qu'ils ont compris que Jésus est ressuscité d'entre les morts et que eux-mêmes allaient ressusciter d'entre les morts. Et la mort ne leur faisait rien. Pierre, il a dit, mais je vais être même à l'envers parce que je suis pas digne d'être livré à la mort comme Jésus. Parce qu'ils savaient qu'ils allaient ressusciter. On sait, quand on sait qu'on va ressusciter et qu'il n'y a absolument aucun doute là-dessus parce que Jésus est là, eh bien, on a un témoignage bien plus important. Témoigner de son existence réelle en tant que fils de Dieu et fils de l'homme, le nouvel Adam. En nous, il y a deux Adams. Il y a le premier qui va mourir et le deuxième qui est Jésus, qui est en nous. Et celui-là, il ne va pas mourir, il ne peut pas mourir parce qu'il est ressuscité. C'est un élan de vérité, ce moment de l'ascension. Et il y a quatre forces que je n'ai pas le temps de développer, mais je veux juste vous donner les grandes lignes. C'est que nous avons une nouvelle mission. La nouvelle mission, ce n'est pas juste d'annoncer l'Évangile. Ça, c'était Jésus qui l'a donné, mais c'est une nouvelle mission. Dans Luc 24, verset 48, Jésus a dit, vous êtes les témoins de ces événements. De ces événements jusqu'à l'ascension, des apparitions de Jésus. Vous avez vu que la résurrection des morts est une réalité. Témoins de ces événements. D'une part, des événements de la souffrance que Jésus a souffert, qu'il est mort en tant que fils de Dieu et fils de l'homme, que son message, eh bien, maintenant porte sur cette résurrection qu'ils ont pu toucher concrètement. Et c'est le témoignage des apôtres qui a été inscrit une fois pour toutes, qui nous donne l'assurance que ça s'est bien produit comme ça. Et on a fait deux expos bibles ici, même sur Elisabethville, on a fait une, l'autre à Mantes. Et on montre bien dans ces expos bibles que le témoignage véridique de ce qui s'est passé est bien plus importante que la guerre des Gaules qui a été écrite par Jules César. Vous voyez, on a encore un élément de l'évangile de Jean qui est un morceau que Jean a écrit. Donc on a une véracité absolument incroyable. On peut déclarer aujourd'hui que le témoignage des apôtres est vrai. Ce qu'ils ont écrit dans la Bible a transformé ma vie. C'est ce que je peux dire quand je crois l'ascension de Jésus. Jésus est vivant parce qu'il est la seule explication possible du changement de vie que j'ai expérimenté. Moi, je peux l'assurer, j'ai vécu cette expérience-là et rien ne peut m'enlever cela. Depuis ma rencontre avec lui, je n'ai plus les mêmes aspirations. Mes objectifs ont changé. D'ailleurs, hier soir, il y a eu un témoignage d'une sœur qui est exactement ça. Qu'elle nous a témoigné. Mes objectifs ont changé. Je ne suis plus autant dominé par l'égoïsme. Mes relations se sont adoucies. J'arrive à maîtriser ma colère. Mes mauvaises habitudes ont commencé à disparaître. Et plus je connais Jésus intimement, plus elles perdent leur emprise sur moi. J'ai une paix intérieure que je n'avais pas auparavant parce que je me sais pardonner. Comment expliquez-vous tout cela? Je connais une seule explication. C'est que Jésus est vivante. Et vivant dans cette personne. Et j'espère que cette personne aussi, c'est vous. Nous n'avons peut-être pas vu Jésus en chair et en os, mais nous l'avons vu agir en nous parce qu'il est vivant. Amen. C'est ça le nouveau témoignage que nous devons porter. C'est un témoignage personnel. C'est pour ça qu'on insiste sur la relation personnelle. Dans nos églises, nous voulons des gens qui ont rencontré personnellement Jésus, sinon de donner une explication historique de Jésus, ça peut être bon pour les églises chrétiennes historiques, mais pas pour les églises évangéliques vivantes. La deuxième force de l'ascension, c'est que c'est un message qui est renouvelé. Dans Luc 19, Jésus va donner un message aux 72. Il a dit, le royaume de Dieu est proche de vous. Mais maintenant, il dit que le royaume de Dieu, eh bien, il doit être prêché par la repentance. Voyez-vous ? Et c'est ça la différence. C'est que nous devons, dans notre témoignage, pas simplement dire Jésus t'aime, il est beau, il est merveilleux, etc. Bien sûr, ça, on peut le dire. Mais il faut rajouter, il te demande de te repentir. Parce que si on rajoute pas la repentance,
bien sûr, il faut être habile et attendre le moment de le dire, etc. Mais si on ne le dit pas, ils ne peuvent pas rencontrer Jésus. Parce qu'on ne rencontre que par la repentance. C'est la repentance des péchés, parce que Jésus est mort à la croix pour nos péchés. Donc s'il n'y a pas la repentance, et aujourd'hui, de plus en plus, eh bien, même les milieux évangéliques perdent cette notion d'annoncer la repentance. On pense que c'est bon pour Jean-Baptiste. Non, pas du tout. La repentance. Force 3 de cet élan de l'ascension, c'est de nouvelles ressources. Dans Luc 24, 46, Jésus leur dit « Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et que la repentance en vue du pardon des péchés serait prêchée en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. » Voyez-vous, la différence, c'est qu'on parle d'Israël à toutes les nations. Et c'est pour ça que dans nos églises, on doit refléter un peu toutes les nations, en tout cas maintenant qu'il y a beaucoup d'immigration, parce qu'il n'y a pas une question de race, d'aspect social ou autre. C'est toutes les nations. Tous ceux qui acceptent Jésus entrent dans le corps de Christ. Et le corps de Christ, il n'y en a qu'un. Il n'y en a pas deux. Il n'y en a pas dix. Il n'y a pas des ethnies de corps de Christ. Il n'y en a qu'un. Amen. Parce que nos corps seront ressuscités, nous aurons tous des corps semblables à ceux de Jésus. Ils ne sont pas ni noirs, ni blancs, ni jaunes, ni rouges, ni quoi que ce soit. Ils sont des corps de résurrection. Amen. Dernier point que je vais citer, c'est la force numéro 4, c'est d'une nouvelle attitude. L'ascension nous donne une nouvelle attitude. Dans Luc 24, 51, pendant qu'il les bénissait, Dieu les a bénis avant de partir, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Et ils étaient continuellement dans le temple et ils bénissaient Dieu. Pour la première fois, ils ont adoré Jésus. Avant, ils l'ont suivi. C'était Jésus qui faisait des miracles, qui faisait tout plein de choses, et il emmenait ses disciples. Là, ils l'ont adoré. Vous voyez, c'est le début de l'adoration. Et quand nous nous rencontrons dans un culte, eh bien, ce qui est important, c'est de commencer par l'adorer. Ils l'adoraient chaque jour, continuellement dans le temple, tellement ils étaient émerveillés d'avoir Jésus qui pouvait maintenant connaître dans l'adoration la louange, parce que maintenant il est dans la gloire. Il siège et tout lui est soumis. Tout lui est soumis. Amen. C'est une nouvelle attitude. Donc, par le souvenir de l'ascension, j'aimerais qu'on se rappelle quatre forces. La force de la mission, d'être ses témoins, des témoins de ce qu'on a rencontré Jésus. Un message de bienfaisance, de la bonne nouvelle du royaume de Dieu, et en l'expliquant bien ce que c'est que ce royaume. Des ressources immenses, une vague nouvelle de Dieu pour le réveil des nations. Et en bas, nous allons ouvrir une chapelle de prière pour toutes les nations. La maison de prière sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Hier soir encore, on l'a rappelé au groupe de femmes d'Albertine. Et des ressources de l'Esprit et la bénédiction de Jésus. On a la bénédiction de Jésus. Jésus les a bénis avant de partir. Et quatrième force, c'est la joie. C'est la joie. Parfois, on chante « La joie du Seigneur est ma force. Ma force est dans la joie du Seigneur. » Amen. C'est la joie. La joie de la rencontre, la joie de l'assurance, la joie de l'autorité que Dieu nous donne en Jésus-Christ, la joie de voir des miracles, des prodiges se produire, parce que je crois que nous allons voir ces choses-là, parce que c'est une question de foi. Dieu n'a pas changé. Nous avons changé, mais pas Dieu. Donc si nous prions au nom de Jésus et que nous invoquons son nom, eh bien il est là et il va agir. Amen. Je termine avant la Pentecôte que nous aurons dimanche prochain. Il y a 9 jours qui séparent. Et c'est quoi le chiffre 9? Puisque tous les chiffres ont une signification. Chiffre 9. Chiffre 3, c'est quoi? Petite révision. Pardon? Oui?
Chiffre 40.
L'attente.
Et chiffre 9. Pardon ? 3 fois 3, oui. Non, c'est plus subtil que ça. D'ailleurs, le chiffre 8, avant, bon, on va faire un petit peu de numérologie. Chiffre 7, c'est l'accomplissement, la perfection. Chiffre 8, c'est quoi ? C'est le changement. Parce que, bon, je ne vais pas rentrer dans ces enseignements-là, mais c'est très simple. Hein, Dieu a construit enfin, l'univers en combien de jours ? 7. 7 jours de la semaine, 7, etc. Voilà. Le 8, c'est quoi ? C'est le suivant du 7, c'est aussi simple. C'est-à-dire, c'est le changement. On est dans un changement. Le 8, c'est... Voilà. Et le chiffre 9, ben, c'est un nouveau cycle. C'est-à-dire, on recommence un nouveau cycle de 7. Vous voyez ? C'est pas de sorcier. Hein. On cherche parfois des choses très ésotériques. Non, non. Dans la Bible, il y a ces enseignements. Donc, le chiffre 9... Justement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il fallait que pendant 9 jours, il soit dans cette chambre haute, qu'il réalise qu'est-ce qui s'est passé. On a connu Jésus physiquement sur la terre. Le royaume de Dieu était là avec lui. On a vu les miracles, on a vu les choses incroyables, etc. Pendant 40 jours, on l'a vu dans le corps de résurrection. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? Il fallait qu'il prépare. D'ailleurs, ils étaient préparés. Le jour de la Pentecôte, Pierre s'est levé et vous avez vu le brio avec lequel il annonçait l'évangile. Et 3000 âmes se sont converties ce jour-là, de toutes les nations d'ailleurs. Bon, ça, on va reparler ça à la Pentecôte. Mais pendant ces 9 jours, eh bien, ils ont réalisé qu'ils devaient être dans un nouveau cycle, une chose nouvelle. De l'ancien Adam, on passe au nouvel Adam. De l'ancienne humanité, on passe à la nouvelle humanité. Et très souvent, on ne fait pas ça, même en tant qu'évangélique. On reste dans nos habitudes, on reste dans nos pensées, on reste dans nos choses. Mais le Seigneur veut tout changer, mes amis, tout changer. Tout dans notre vie, tout dans l'Église, tout dans notre façon de comprendre les choses, de comprendre ce qui nous entoure, pour qu'on puisse annoncer l'Évangile à la hauteur qui doit être annoncée avec puissance et autorité. Amen. Seigneur, nous te prions pour que, Seigneur, ta parole puisse nous conduire, Seigneur, à mieux te connaître et connaître en particulier ce moment de l'ascension qui a changé complètement les choses, qui a bouleversé, Seigneur, tout ce que les disciples ont connu et que tout ce que nous, aujourd'hui, on connaît. Que, Seigneur, le message du christianisme, de l'évangile, ne soit pas un rabâchage de choses qu'on a entendues, mais qu'il soit authentique, Seigneur, de ce que nous avons vécu avec toi et de ce que nous pouvons l'actualiser par ta parole. Nous te prions, Seigneur, de nous faire grâce afin que ton nom soit glorifié dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen.